Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 7. C'est intéressant de voir que un livre qui a été écrit il y a plus de 3000 ans, ou 2700, puisse pouvoir nous parler à ce point. Et c'est pas de la légende, c'est pas du domaine de la fable, de la poésie, c'est du domaine du réel, de l'historique. Et lorsqu'on étudie un livre comme ça, chapitre après chapitre, verset après verset, on établit une certaine relation avec l'auteur. Pour vous qui venez ici, on semble qu'on connaît bien l'apôtre Paul depuis le temps qu'on le cite, qu'on étudie ce qu'il nous dit sous l'influence de l'Esprit-Saint. Et là, le prophète Ésaïe, on voit le cœur de Christ à travers lui. C'est le grand prophète messianique. C'est lui qui a le mieux annoncé la première venue ainsi que le retour de Christ parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons vu la semaine dernière, ou le chapitre précédent, le chapitre 6, comment il avait été appelé, comment il s'était retrouvé devant le trône de Dieu et comment cette vision de Dieu lui avait montré son péché, comment il avait dû être purifié par Dieu, par l'intermédiaire d'un ange qui lui avait brûlé avec une braise, la langue, parce qu'il venait d'un, il avait les lèvres impures, il venait d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Et lorsque ses lèvres ont été ainsi touchées, il est dit « Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et dès qu'il a cette relation rétablie avec Dieu, il est prêt à répondre lorsque le Créateur de l'univers lui demande « Qui c'est que je vais envoyer pour, qui va marcher pour nous ?» Ça, c'est une allusion à la Trinité. Trois personnes en un seul Dieu, un seul Dieu en trois personnes. Et il répond « Me voici, envoie-moi. » Et nous avons été surpris avec Ésaïe que, en fait, le ministère auquel Dieu l'appelle n'est pas un ministère plein de succès, de nombre, de richesses matérielles. Non, au contraire, c'est un ministère de condamnation. Il dit qu'il va aller dans un peuple qui va rien comprendre et ça va durer jusqu'à ce que la dévastation arrive. Et ça, c'est pas la meilleure façon de recruter un jeune prédicateur. Viens, ton ministère va rien, pas porter de fruits, et ça va durer jusqu'à ce que tout soit détruit. Je ne sais pas si ça attirerait beaucoup de jeunes maintenant. Et pourtant, quelque chose doit être dit pour le fait que lorsqu'on promet aux jeunes le bonheur, ils sont contents, mais on peut évoquer le meilleur en eux lorsqu'on leur promet, un peu comme Winston Churchill, de la peur, du sang et des larmes. Je sais, tous là, vous êtes ici et vous voulez que votre vie, elle compte. Vous voulez que votre vie, elle fasse une différence pour cette vie et pour la vie éternelle. Et peut-être qu'à travers l'appel d'Ésaïe, le Seigneur vous parle et vous dit, est-ce qu'il y en a qui vont se porter volontaire, le Dieu Tout-Puissant qui, au lieu de nous ordonner d'aller le servir, nous demande, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vont dire, qui c'est qui va marcher avec nous, qui c'est qui va faire ce pourquoi je l'ai appelé? Et malgré cette vision très pessimiste, il y a à la fin du verset 6, il va conserver une souche, un reste, qui va donner une sainte descendance. Il y a déjà la miséricorde de Dieu, même si le peuple s'est éloigné de Dieu, le peuple d'Israël, Dieu promet, et ça c'est une promesse qu'on retrouve dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament aussi, Dieu n'a pas fini avec Israël. Et Dieu va bénir une souche, un reste. de cette souche, comme un arbre abattu, va naître la sainte descendance que Jésus représente. Mais aussi à travers cette souche, il va y avoir tout un tas de juifs qui vont être sauvés. Et là, on voit, au chapitre 7, on va voir, vous vous souvenez que le royaume de David, qu'il avait passé à son fils Salomon, qui était au fait de sa gloire, de son extension géographique, en fait, il va être divisé, parce que le fils de Salomon, Roboam, va essayer d'être dur avec le peuple, et finalement il y a un autre gars, Jéroboam, qui va prendre une partie des tribus, et il va y avoir un royaume du Nord avec 10 tribus, basé, la capitale étant Samarie, qu'on appelle par la suite Israël, et puis il y a 2 tribus qui vont rester à Jérusalem, qui sont la tribu de Juda et de Benjamin. Et ça, c'est appelé Juda. Des fois, on parle pour le royaume du Nord, on parle d'Éphraïm, parce que Éphraïm, c'était la plus grande tribu des 10 tribus d'Israël qui étaient restées au Nord, séparées. Et lorsque vous lisez les livres historiques des rois et des chroniques, et aussi on le voit ici dans les prophètes, vous voyez qu'il y a une série de rois en Israël, et en Israël, donc le royaume du Nord, il n'y a aucun roi qui n'ait été bon, qui n'ait servi Dieu comme il le devait. C'est tous des mauvais rois. En Juda, au sud, il y a eu quelques bons rois et quelques mauvais rois, quelques très mauvais rois. Et là, on va commencer à lire, on va commenter un peu. Je lis donc à partir du chapitre 7, verset 1. Donc, on parle des rois de Juda. Au temps d'Ahaz, c'était un très mauvais roi, fils de Jotham, fils d'Ozias. Ozias était un bon roi, dont il était question au chapitre 6. Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie. D'autres traductions peuvent parler des fois de Aram. Aram, c'est la même chose que le pays de Syrie, dont Damas est la capitale encore aujourd'hui. Partit en guerre avec Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais il ne put l'attaquer. Donc, Ozias a été remplacé par son fils Jotham. On a dit que Ozias avait été un très grand roi, sauf que ses réussites militaires, sociales, ont fait qu'il il a pris la grosse tête. Il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne puisse pas servir dans le temple, et ce n'était pas du tout sa place, et le Dieu a dû le frapper d'une lèpre, et il est mort lépreux, après avoir régné 52 ans. Et c'est son fils Jotham qui l'a remplacé. Jotham, il a eu un autre fils qui est devenu un très mauvais roi, Ahaz. Il en est question dans le livre des rois. Deux rois, si vous voulez noter, pour vous y reporter, si vous voulez regarder d'un peu plus près. Vous pouvez trouver des informations sur ces rois dans 2 rois 15 et 2 rois 16. Ahaz, il a même sacrifié ses enfants à des dieux païens. Il a voulu s'attirer les faveurs de l'empire assyrien, à ne pas confondre avec le royaume syrien. Il y avait la Syrie et l'Assyrie. Deux choses distinctes qu'il faut comprendre, sinon on est un peu perdu. Et il a essayé de se ménager les faveurs de l'Assyrie, avec un grand A. On fit, verset 2, on fit ce rapport à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Ahaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, sors donc à la rencontre d'Ahaz, toi et Shéar Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du champ du teinturier. C'est historique. C'est des détails précis. C'est pas des... Il était un jour un petit bonhomme en pain d'épices qui habitait dans une jolie forêt avec des fleurs. Non, c'est... Vous voyez la précision. L'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du champ du teinturier. On sait exactement où c'est. On peut aller voir les endroits en Israël en ce moment. C'est le fils de Ahaz qui a construit un fameux tunnel pour assurer l'alimentation en eau de Jérusalem. Depuis ce coin où il devait se trouver, le chemin, le champ du teinturier. On peut visiter, on peut marcher dans ce tunnel, les pieds dans l'eau. J'ai pu faire cette expérience il y a un an et quelques mois. C'est fantastique. C'est un tunnel qui a été creusé dans la roche calcaire dure, à coups de piolet, à coups de pic. Et ça, c'était en 700 avant Jésus-Christ. On voit les marques des coups de pioche. On voit l'endroit où ils sont partis de deux côtés. Et puis à la fin, ils sont un peu perdus, quoi. C'est déjà un exploit d'ingénierie de faire un tunnel et de se retrouver. Ils auraient pu, oui, comme le fait Michael, ils auraient pu continuer à aller jusqu'au bout. Mais là, ils se sont entendus. Et donc, on voit tout ça pour dire que vous pouvez mettre votre foi dans ces récits. C'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est bien précis. Revenons au verset 4. « Tu lui diras, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Remaliaou. Parce que la Syrie médite du mal contre toi avec Éphraïm et le fils de Remaliaou qui disent, montons contre Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous établirons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabéel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple, Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remaliaou est la tête de la Samarie. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. » Arrêtons-nous un moment pour résumer un peu, ça peut être confus. Il y a le royaume du Nord qui s'allie avec le royaume de Syrie. Ils sont menacés par l'empire assyrien. Ils ont peur d'être emportés. C'est ce qui va se passer finalement. Et ils disent au roi d'Israël, de Juda, au sud, allie-toi avec nous pour qu'on puisse lutter ensemble. Mais le royaume de Juda, lui, a la bonne, mauvaise idée de dire non, on va s'allier avec le royaume assyrien. Donc, il va chercher de l'aide, en fait, auprès de l'ennemi. Et il va y avoir, au verset 2, on leur dit que les troupes du nord, donc ça, si vous regardez sur une carte, c'est vers le nord de la terre promise. Il y a les Syriens qui sont déjà là et Ahaz, le roi du sud, commence à trembler comme une feuille. Son cœur se met à frémir comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu très peur, vous avez les genoux qui flageolent, vous avez... C'est l'état dans lequel se trouvent les gens du sud. Et l'Éternel donne un message à Ésaïe, son prophète, et lui dit, va avec ton fils, Shear Yashub. Un drôle de nom, en fait ce nom veut dire, un reste reviendra. Dieu utilise tous les moyens pour communiquer avec nous, et là il utilise le prophète de façon graphique, en lui donnant des enfants qui ont des noms prophétiques. Et nous, on choisit un nom, on dit, tiens, on va l'appeler Jessaline, on va l'appeler Dina, il y a même peut-être une idée derrière ça, mais Dieu utilise avec ses enfants des noms à chaque fois que les parents les appellent. Hé, Shirji, Yashoub, viens manger ta soupe. Pour les gens qui sont autour, ça, c'est la vérité qui est encore proclamée. Qu'il va y avoir un reste. On est toujours dans le domaine de la souche qui va rester. Dieu punit, mais son cœur, c'est pas de punir. Son cœur, c'est de bénir. Et même quand il punit, il essaye de trouver quelqu'un, quelque chose à racheter. Et l'homme va donc avec Ésaïe, le prophète, va avec son fils rencontrer le roi Ahaz dans cet endroit bien précis, à l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Là, c'est comme si on vous donnait le zip code, là, le code postal, et tout y est. Tu lui diras, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. Il dit à Ésaïe, va dire au roi Ahaz, qui n'était pas un bon roi, Dieu veut bénir son peuple. Et des fois, il va utiliser même des mauvais rois ou des mauvais leaders, et il va quand même bénir le peuple. Et il dit, va voir ce roi et dis-lui qu'il n'a pas de souci à se faire. Que, en fait, ces deux états, l'état d'Israël du Nord et le royaume de Syrie, en fait, ils sont inoffensifs. Ils sont, dit-il, comme des bouts de tison fumant, un peu comme des briquettes qui s'éteignent sur un barbecue. Il n'y a rien à craindre. C'est vrai que la Syrie veut du mal. Avec Éphraïm, il cite les noms des rois d'Israël. Il y a eu Remaliaou et son fils, c'est Péka, qui est maintenant le roi, le fils de Remaliaou, et ils veulent prendre Jérusalem. Ils veulent établir un roi au milieu d'elle. Verset 6, à la fin, c'est le fils de Tabéel. On n'est pas exactement sûr de qui était Tabéel. Les Hébreux utilisaient des codes de chiffrage, un peu comme pendant la guerre, on envoyait des messages chiffrés. Et il y avait plusieurs techniques simples, mais qui sont efficaces, même aujourd'hui. Et par exemple, on peut diviser l'alphabet en deux et remplacer une lettre par la lettre qui lui correspond dans la deuxième moitié. Et ça devient incompréhensible quand on lit. Et il se trouve que si on dit le fils de Tabéel avec un système comme ça, on peut voir le fils de Péka, donc ce serait le futur, le fils du roi actuel. Mais peu importe, ces nations veulent prendre le pouvoir et Dieu dit, il n'y a pas de souci à se faire, en fait, dans 65 ans. Il ne dit pas dans un beau jour, ou dans un futur proche ou lointain, 65 ans, 65 fois, 365 ou 360, à l'époque c'était 360 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. Le royaume d'Israël va être conquis. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les Assyriens ont pris le royaume du Nord et l'ont emmené en exil. Ça s'est passé à la lettre. On sait l'année du roi Ahaz, on sait quand, et c'est exactement 65 ans. Encore une fois, les prophéties dans Ésaïe sont tellement formidables que les critiques de l'inspiration biblique, ceux qui ne veulent pas croire que la Bible est un livre inspiré par Dieu, on dit, en fait, il y a deux livres. Il y en a un qui a été écrit au début, puis un autre qui a été écrit à la fin. Parce que c'est facile de faire des prophéties après que les choses se passent. Mais ce n'est pas le cas. On a déjà expliqué pourquoi, on a déjà expliqué que même Jésus disait qu'il y avait un seul Ésaïe, dans Jean 12, etc. Reportez-vous aux enregistrements des messages précédents. Les prophéties, rien que pour la venue de Jésus, c'est fabuleux. Et encore une fois, c'est quelque chose d'unique à la Bible. Dans les quelques chapitres qui vont suivre, là, du chapitre 6 au chapitre 10, en 5 chapitres, il y a déjà des tas de prophéties sur la venue de Jésus. Et pour qu'une personne au hasard puisse remplir les conditions de ces prophéties, on voit tout de suite des chiffres astronomiques. C'est-à-dire que la probabilité qu'une personne prise au hasard ait pu remplir ses prophéties, accomplir ses prophéties, elle est infinitésimale. Elle est impossible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'était pas du hasard. Jésus a été envoyé par Dieu et Dieu a montré que c'était bien lui en donnant ses prophéties qui se sont accomplies à la lettre. Et vous savez, vous connaissez un peu les probabilités, plus il y a de détails et plus ça devient improbable que la même personne par hasard puisse accomplir toutes ses prophéties. Il donne cette prophétie, donc dans 65 ans, Jérusalem, tu peux être sûr que le royaume de Samarie ne sera plus. À la fin du verset 9, un principe très important. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. Alors une autre façon de le dire qui est peut-être plus parlante, qui est peut-être moins poétique. Si vous ne croyez pas en Dieu, n'attendez pas qu'il vous défende. Les gens des fois se disent « je ne crois pas en Dieu ». Et puis après, ils critiquent Dieu pour leur donner des circonstances difficiles. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. Ne reprochez pas à un Dieu auquel vous ne croyez pas de vous rendre la vie difficile. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Par contre, si vous croyez en lui, vous pouvez lui faire confiance. Et c'est le sens de ces passages. Verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Ahaz répondit « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, c'est la descendance du royaume de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. » Dieu veut parler à son peuple, il veut parler au roi. Il lui a dit « Ne crains rien. Je t'ai dit que ces deux bouts de charbon qui s'éteignent là, qui te font peur maintenant, ils ne seront plus là. » Et de nouveau, apparemment ça n'avait pas touché le cœur du roi Ahaz, de nouveau Dieu lui dit « Écoute, demande-moi un signe. Demande-moi d'accomplir quelque chose pour que tu saches, quand je vais y répondre, que c'est bien moi qui te parle. » Et il lui dit, tu peux demander quelque chose dans les lieux d'en bas, quelque chose dans les lieux élevés. Il dit, imagine n'importe quoi et demande-moi de l'accomplir. Et je l'accomplirai. Qu'est-ce que vous demanderiez comme signe à Dieu ? La Bible nous dit qu'on ne doit pas demander de signe. On a déjà toutes les garanties, tous les signes ont été déjà révélés. Mais imaginez que Dieu vous dise, Pierre, Marc, Jenny, essaie, demande-moi d'accomplir un signe pour te montrer que c'est bien moi qui te parle, n'importe quelle chose, qu'est-ce que je lui demanderais ? Peut-être que cette chaise décolle et flotte dans l'espace. Dieu est prêt à le faire, pas pour moi peut-être, mais ni pour vous maintenant, peut-être, mais il est prêt à le faire pour ce roi Ahaz, qui est un mauvais roi, qui a encouragé les cultes païens, qui a même sacrifié ses enfants, certains de ses enfants, il les a fait brûler, mourir, offert en offrande à ces dieux qui ne sont que des idoles. Et Ahaz, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye d'être religieux, de paraître spirituel, et dit « Oh, non, jamais je demanderai à Dieu de me faire un signe. Moi, je suis religieux, je sais que ce n'est pas bien de faire ça. Même si Dieu me le demande, je n'ai pas besoin de ça. » Alors que c'est Dieu lui-même qui lui dit « Demande-moi quelque chose et tu vas voir. Je vais te prouver que c'est bien moi qui te parle. Tu peux faire confiance à mes paroles. » Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi ? On peut penser que c'est peut-être parce qu'il veut paraître spirituel auprès des autres qui pensent. Des fois, on fait ça. On dit, comment est-ce que Billy Graham réagirait ? Comment est-ce qu'un grand pasteur répondrait ? Comment est-ce qu'un tel, au lieu de laisser parler notre cœur et d'être dans notre relation avec Dieu, on essaye de copier ce qu'on pense être quelqu'un de spirituel ? Mais probablement, c'est parce qu'il a peur que si Dieu lui donne un signe, il n'aura plus d'autre solution que d'obéir à ce que Dieu lui demande. Et souvent, c'est pas nos oreilles qui n'entendent pas, c'est notre cœur qui refuse. Jour après jour, vous lisez la parole, semaine après semaine, on l'étudie ensemble. Plein de choses que vous connaissez, plein de choses que vous avez entendues, mais est-ce que mon cœur est prêt à obéir à Dieu ? Ou est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il est encore rebelle ? Chacun peut répondre à cette question. Et Esaïe réplique, écoute, ça suffit maintenant. C'est déjà pénible que tu lasses les hommes, tu n'écoutes pas Dieu, tu ne fais pas confiance à Dieu, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Mais si tu continues à énerver Dieu comme ça en ne répondant pas lorsqu'il te demande de lui demander quelque chose, ça va mal aller pour toi. Et même si tu ne veux pas de signe, le Seigneur va t'en donner un. Et c'est ce fameux signe de la jeune fille vierge qui enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. La prophétie, on l'a souvent dit, je le répète, elle a des accomplissements multiples. Il y a d'abord l'accomplissement immédiat. À l'époque d'Ésaïe, on peut penser qu'il y a un enfant qui est né d'une jeune fille auquel elle a donné le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Mais on sait que dans Matthieu, le premier chapitre du Nouveau Testament, lorsqu'il est question de la naissance de Jésus-Christ, il est dit au verset 22 du premier chapitre, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Prophétie d'Ésaïe, c'est une prophétie pour la naissance de Jésus-Christ à l'époque où Jésus est né, au premier siècle, au début du premier siècle de notre ère. Mais c'était aussi une prophétie historique pour qu'il soit un signe pour ce roi impie, ce roi rebelle. Une jeune fille, c'est le mot qui est utilisé, c'est pas nécessairement le mot vierge, mais en fait, qu'une jeune fille non vierge donne naissance à un fils, c'est rien d'un signe. C'est rien d'un miracle. C'est de la logique pure. Si une jeune fille tombe enceinte, c'est qu'elle est tombée enceinte, et puis un point c'est tout. Qu'elle était vierge avant, mais de toute évidence, elle ne l'est plus maintenant, sauf dans le cas de Jésus-Christ. Et ça, c'est le signe de Matthieu. Jésus n'est pas un homme né de deux parents, il est né humain, il est né de l'Esprit-Saint, de Dieu et de la Vierge Marie. Et puis il est question de ce qu'il allait manger, de la crème et du miel. Ça veut dire avant qu'il ait atteint l'âge de probablement de 2 ans, le territoire des deux rois sera abandonné. Ça aussi, c'est une prophétie pour annoncer le fait que les deux royaumes du Nord vont arrêter d'assiéger Jérusalem. Dans 2 ans, vous n'aurez plus à vous en faire. Et dans 65 ans, ils auront complètement disparu. Et puis, on va voir une vision du ravage, des ravages causés par l'invasion assyrienne maintenant. Verset 17. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton peuple des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est éloigné de Juda, le roi d'Assyrie, avec un grand A. Il arrivera en ce jour que l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité du delta du Nil et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront, se poseront toutes dans les vallons abrupts et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux têtes de petit bétail. Il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de la crème et du miel que se nourrira quiconque sera resté au milieu du pays. En ce jour-là, il arrivera que tout lieu où se trouveront 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Quant à toutes les montagnes cultivées à la bêche, on n'y entrera plus, par la crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis en foulera le sol. Un langage poétique, ces mouches, ces abeilles qui vont être appelé, c'est ce rasoir qui va raser le pays. En fait, c'est les troupes assyriennes et leurs alliés qui vont venir complètement détruire le pays de Juda. C'est pour dire au roi, tu ne veux pas de signe, moi je vais t'en donner un et je te garantis que le malheur va s'abattre sur le pays. Jérusalem n'est pas tombée tout de suite. Jérusalem a quand même été sauvée une première fois. Elle aura résisté à des menaces d'invasion. Elle aura repoussé un siège. Dieu encore veut prévenir son peuple. Dieu veut nous prévenir. Il nous dit, si vous revenez à moi, si vous suivez mes voies, vous aurez la paix, vous aurez la bénédiction. Mais si vous continuez, si vous continuez à vous rebeller, un jour viendra où je serai obligé de sévir. Il continue au verset 8, 1 du chapitre 8. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et écris dessus de matière intelligible, vite au pillage, en hâte au butin. On va voir que c'est le nom, justement, qu'il va donner à son deuxième fils. « Je fis témoigner pour moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Yéberekiaou. » C'est pas le plus long nom, on va avoir le plus long nom de la Bible dans 2 versets. « Je m'étais approché de la prophétesse, elle devint enceinte et enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shahal Hashbaz. » Voilà, si vous jouez dans un jeu Trivia, c'est le plus long nom de la Bible et ça veut dire encore une fois « vite au pillage, en hâte au butin ». Car avant que l'enfant sache dire « mon père, ma mère », Jessalie ne sait pas encore dire « papa, maman », mais ça ne devrait pas tarder. Ça veut dire que ça va être très proche. Avant que l'enfant puisse dire « papa, maman », on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. C'est encore la prédiction de l'invasion et de la destruction du royaume du Nord et du royaume de Syrie par le roi d'Assyrie. Il va être question de deux rivières maintenant. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Réamaliaou, alors à cause de cela, voici ce que le Seigneur fait monter contre eux. Les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, il s'élèvera au-dessus de son lit et s'en ira par-dessus toutes ses rives. Il se tournera contre Juda, il inondera et débordera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Même à Nice. Préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Deux fois. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne le redouterez pas. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'hommes y trébucheront. Ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Prophétie, d'abord sur verset 5, l'Éternel dit à Ésaïe, le peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et puisque c'est ça, je vais faire monter une grande vague qui va venir du grand fleuve. Le fleuve, il est dans les questions ici, c'est le fleuve qui passe par la capitale du royaume assyrien, Ninive, c'est l'Euphrate, cette grande rivière. Et ça, c'est le Seigneur dit plus que des choses historiques auxquelles on ne comprend rien. On peut regarder dans des livres d'histoire, des dictionnaires. Il dit, le peuple a méprisé les eaux de Siloé. Quand on va en Israël, à la fin de ce canal creusé dans le rocher sous le roi Ézéchias, on voit des eaux qui coulent lentement. Il y a le pool, le réservoir de Siloé dont il est question dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas spectaculaire au niveau volume d'eau, mais pourtant c'était assez pour suffire et pour apporter l'eau nécessaire à la ville de Jérusalem. Dieu pourvoyait, mais les gens trouvaient, on a honte à montrer aux touristes le petit canal là. C'est pas impressionnant, c'est pas comme le grand fleuve. Moi je suis allé à Ninive et j'ai vu l'Euphrate, ça c'est du fleuve, mais j'aimerais quelque chose de plus spectaculaire. Dieu nous dit, je pourvois à vos besoins. Si vous êtes là, c'est qu'il a pourvu. Sinon, vous ne seriez plus là. Mais on aimerait des fois que ce soit plus spectaculaire. On aimerait pouvoir impressionner les gens. Dieu dit, vous n'êtes pas satisfait de ce petit fleuve ? D'accord, ce n'est pas un fleuve, c'est un petit ruisseau en fait, qui coule et qui alimente la ville, mais qui est suffisant. Puisque vous voulez pas ça, vous voulez du fleuve, je vais vous faire déborder un fleuve au-dessus de vous. Il inondera et débordera, il atteindra jusqu'au cou. Encore une fois, Dieu ne les noie pas complètement. Il leur laisse la tête hors de l'eau. Il leur promet la captivité, vous serez terrifiés, vous formez des projets, ils seront anéantis. Jacques nous dit, des fois vous faites des projets, vous dites, l'an prochain je serai dans telle ville, je ferai tel commerce, je vendrai ceci, je vendrai cela. Est-ce que vous pensez qu'en fait tout dépend de Dieu? Est-ce que vous venez d'abord à Dieu pour savoir si vous devez faire ces projets, ou est-ce que vous dites, si Dieu veut? Alors c'est vrai qu'on peut devenir religieux un peu comme le roi qui disait, oh, moi je ne demande pas de signe, on peut dire à chaque phrase qu'on dit, je viendrai manger chez toi à midi si Dieu veut. C'est vrai qu'à tout moment on peut tomber par terre, on peut être renversé par une voiture, on peut avoir une crise cardiaque. Mais vous dites une parole et elle ne tiendra pas. Il continue au verset 11 en disant « L'Éternel m'a parlé, vous ne le redoutez pas, vous n'avez pas peur de lui. » Il était question de conspiration, on n'a pas trop parlé de Remaliahou, c'était quelqu'un qui travaillait pour le roi Yotam, et c'est son fils qui avait monté un coup, qu'il avait, donc le roi Péka, lui-même va être victime d'une conspiration. Vous êtes plus intéressé par les conspirations qui se passent entre les gens, vous voulez savoir ce qu'un tel pense d'un autre, mais vous oubliez Dieu. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Si vous le faites, si vous avez peur de Dieu, si vous avez cette peur sainte, révérencieuse de Dieu, alors vous allez avoir la paix parce qu'il va être comme un sanctuaire. Si vous craignez Christ, si vous cherchez à lui plaire, alors Christ, au lieu d'être une menace, devient un sanctuaire. Lorsque vous vous retrouvez avec lui, vous êtes dans la paix, vous êtes en présence de Dieu, comme dans un sanctuaire. Et ce même Jésus, il est un rocher qui fait trébucher les deux maisons d'Israël. C'est-à-dire que il est un objet d'incompréhension. Et aujourd'hui encore, la majorité des Juifs ne comprennent pas que le Messie qu'ils attendent est arrivé, que c'est Jésus. Il est un rocher, une pierre qui fait trébucher. Et le même Jésus qui est une bénédiction pour ceux qui le reçoivent et qui l'accueillent, il est une malédiction pour ceux qui le rejettent. Il n'y a pas de, encore une fois, je n'ai rien contre nos amis suisses, bien au contraire, mais il n'y a pas de neutralité suisse en matière de foi. Jésus l'a dit, soit on est pour lui, soit on est contre lui. Peut-être que vous connaissez des gens, peut-être que vous-même, vous êtes ici pas par hasard, mais vous pensez que c'est, pourquoi je suis ici ce matin, j'en sais rien. Dieu veut que vous preniez parti, soit pour lui, soit contre lui. En même temps, il vous révèle que si vous êtes contre lui, vous allez avoir des problèmes. Il est une pierre de malheur pour la plupart des Israélites, des Juifs. Aussi bien ceux qui descendent des tribus de Juda, de Benjamin, que ceux qui descendent des tribus du Nord, Éphraïm, Naphtali, Gad et toutes les autres, Aser et compagnie. C'est un rocher sur lequel on ne peut pas marcher tranquillement. Soit on va passer, soit on va trébucher. Jésus fait trébucher les gens aujourd'hui. Vous pouvez parler du Dalai Lama, personne ne dit rien, tout le monde sourit. Parlez de Mohamed, vous avez intérêt à bien parler de Mohamed, sinon la charia, vous avez la fatwa et ça y est, c'est fini, là, votre vie devient un enfer. Jésus est un objet de chute pour tous les hommes. Il est un objet de salut, mais aussi de chute. Pour les musulmans, Jésus est un objet de chute. Ils ne comprennent pas. Il en est bien question dans leur Coran. Il a le sceau de justice. On parle très bien de Jésus dans le Coran. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la logique même qui est dans le Coran. Et beaucoup d'hommes, malheureusement, vont trébucher sur Jésus. Ils vont tomber, ils seront pris au piège et capturés. On va terminer, verset 16. « Conserve ce témoignage, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés, cher Yashoub et Maher Shaal Ashbaz. Nous sommes comme des signes et des présages en Israël. Ils servent de signes. » À chaque fois qu'il appelle Maher Shaal Ashbaz, viens ici tout de suite. J'espère qu'il avait un diminutif, mais l'idée c'était qu'à chaque fois les gens entendaient, ça va être vite le pillage, vite le butin. On va être envahi bientôt. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel des armées qui demeure sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, il se tournera vers l'Europe, il regardera vers la terre, et voici la détresse, l'obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. » Toujours ce langage prophétique, conserve ce témoignage, Dieu dit à son prophète Ésaïe, scelle cette révélation parmi mes disciples. Nous l'avons, nous connaissons ses paroles, ses promesses, ses prophéties. J'espère en l'Éternel, je mets ma confiance en l'Éternel, même s'il cache sa face à la maison de Jacob. Si les Juifs ne le voient pas, ou peu importe, moi, Ésaïe, je suis là, je porte témoignage. Et il leur dit, si on vous dit faites de l'astrologie, si on vous dit faites de la nécromancie, si on vous dit de faire parler les tables, les esprits en faisant bouger les tables, je vous dis c'est de la folie, c'est interdit par la parole de Dieu. Si vous lisez votre horoscope, cessez immédiatement. Si vous faites plus, si vous tirez des cartes pour voir ce qui va se passer dans le futur, arrêtez tout de suite. Consultez Dieu. Dieu révèle ce qu'il veut que vous sachiez et ne cache ce qu'il veut que vous ne sachiez pas encore. Les choses révélées appartiennent aux hommes et les choses cachées appartiennent à Dieu. Deutéronome 29-28. Il est clé de s'adresser à Dieu. Est-ce que on va s'adresser aux morts pour savoir ce qui va se passer pour les vivants? Et vous dites non, jamais personne n'a fait ça. C'est le culte des saints dans l'Église catholique. Les saints, ils sont morts. Et on va prier les saints qui sont morts pour savoir ce que le futur nous révèle. On va demander à Sainte Rita de nous guérir. On va faire brûler des cierges. C'est ridicule. Jésus dit, mais Dieu dit par Ésaïe, est-ce qu'on va aller voir les morts pour parler des vivants? Il leur dit, parlez à Dieu, à la loi et au témoignage. Façon dont c'est lié, on peut dire à l'abordage. Non, il est question de aller lire la parole de Dieu, la loi, le témoignage. Et si vous ne faites pas ça, vous serez dans l'obscurité, vous serez dans les ténèbres, vous aurez beau voir vos cartomanciennes, vous aurez beau lire vos horoscopes qui sont présents dans tous les journaux de France et de Navarre, malheureusement. On nous dit qu'on est fou, qu'on est des sectes parce qu'on croit au Dieu de la Bible. Mais combien de gens lisent leur horoscope? Oh, juste pour s'amuser. Ben, ils n'ont qu'à lire le bottin pour s'amuser, si ça les intéresse. C'est aussi ridicule, c'est aussi vide de sens. Ah oui, mais quand même, moi je suis né sous le signe du Verseau, et ce qu'il dit, ça correspond assez bien à ma personnalité. Naissé sous le signe du lion de Juda, venez à Jésus, laissez tomber toutes ces sornettes, ces balivernes, qui ont une vérité satanique derrière elles. Sinon le pays va être accablé, affamé. Il arrivera qu'il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu. Et ça, c'est nous. On suit pas Dieu, mais quand les choses vont mal, on maudit Dieu. Mais il y a de l'espoir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Zabulon et Nephtali, c'était les pays tout au nord. C'est eux qui ont été détruits en premier par la Syrie, par le royaume assyrien, l'empire assyrien. Et un premier temps, ça a rendu négligeables ces nations, mais il y a un temps qui va venir donner de la gloire à tout Israël, au reste d'Israël. Encore une fois, Ésaïe, son nom, c'est le même nom que, ça veut dire la même chose que Jésus. Ça vient de Yeshua, Shua, c'est le salut de Dieu. Dieu sauve, Dieu appelle les hommes. Dieu veut nous parler. Il nous parle en utilisant ce vieux prophète. 700 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos oreilles? Est-ce que nous pouvons nous tourner vers le Dieu éternel, réel, qui nous veut du bien, qui veut qu'on n'ait rien à redouter quand on le craint, lui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent aujourd'hui? Tout à l'heure, on a chanté ce chant qu'on chante souvent, et des fois, quand on connaît un chant, on prête plus d'attention à la mélodie, au savoir si on tape bien des mains, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est le message. Donnez-lui tous vos fardeaux. Et je me suis dit, en écoutant ça, j'ai dit, mais c'est vrai, j'ai plein de fardeaux en ce moment. J'ai des tas de choses à faire et j'ai pas le temps de les faire. Il y a des dates limites, j'ai un tel qui me demande un papier officiel pour mardi matin. Il faut que j'envoie la convocation à l'Assemblée Générale. Dans les statuts, il est dit qu'il faut les envoyer 10 jours avant. Est-ce qu'on a déjà dépassé la limite? Et d'autres soucis, et ça peut être des soucis un peu de nature triviale, ou ça peut être des soucis très durs, ça peut être des soucis très graves, une maladie, peut-être certains ont entendu le terrible mot de cancer prononcé par le docteur. Ils font du souci pour leurs enfants, il y a eu peut-être un échec à un examen, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a eu un deuil, qu'est-ce que je vais devenir? Donnez-lui tous vos fardeaux. Si vous le craignez, si vous le placez sur son trône, alors quand vous venez à lui, vous avez la paix. Il vous donne sa paix comme un fleuve. Amen. Prions. Seigneur, tu vois combien il y a de leçons à tirer de la vie de ces hommes, même de ces rois qui prétendaient être spirituels, mais qui désobéissaient à ta parole, qui n'écoutaient pas ce que tu leur demandais de faire. Seigneur, tu veux nous parler aujourd'hui. Tu veux me parler. Seigneur, je prie vraiment que ces choses, elles ne soient pas remises dans le dossier Ancien Testament, refermé sur la commode ou dans les tiroirs de nos cœurs, Seigneur, mais qu'on se sente vraiment interpellé. Que mes craintes, ce ne soient pas les craintes des hommes, les craintes des circonstances, mais que ce soit la crainte révérencieuse de toi, Seigneur. Et Seigneur, tu sais que je me parle à moi-même. Combien de fois il est plus facile d'avoir peur des circonstances, d'avoir peur des gens, d'avoir peur des choses et d'oublier d'avoir une peur qui me conduit à obéir à tes commandements. Seigneur, touche-nous tous, touche-moi, pour que ce soit toi seul que je craigne, que je puisse te remettre tous mes fardeaux, toutes mes dates limites, tous mes échecs, toutes mes appréhensions, toutes mes maladies, tous mes deuils, toutes mes angoisses pour l'avenir. Seigneur, nous vivons dans une époque où il semble que les temps approchent. Nous allons voir ce mercredi un survol de la fin de l'Apocalypse. Il est évident que l'horloge n'en a plus pour longtemps. Et Seigneur, tu nous dis, n'ayez pas crainte, ne craignez pas, craignez-moi seulement. Et tu deviens pour nous un sanctuaire. Ta paix vient nous inonder comme un fleuve puissant. Seigneur, sois béni. Merci pour Ésaïe, Seigneur. Merci pour ces prophéties antiques qui sont accomplies à l'époque avec une réalisation première, mais qui se sont accomplies aussi à la venue de Jésus et qui vont se réaliser dans les temps qui sont les derniers. Touche nos cœurs, Seigneur. Donne-nous de partager ce message avec le plus grand nombre. Amen. Amen.